c'est quand même un moment très particulier et très délicat où on est en train de basculer de façon très insensible dans quelque chose qui peut devenir vraiment violent pour une partie de la société, pour la une forme d'avant-garde que seraient les gilets jaunes, qui seront particulièrement exposés à la violence qui vient, mais plus généralement à tous ceux qui subiraient derrière le contre-coup d'une défaite, d'un échec, d'un mouvement qui ouvrirait grand les vannes à une sorte de pulsion réactionnaire qui va s'abattre sur des millions de personnes. Et de la révolte, enfin pardon, de la réforme de l'assurance chômage à la question des retraites que Agnès Buzyn a essayé de rouvrir tel un ballon d'essai il y a quelques jours en disant qu'elle était pour un décalage encore de l'âge de l'entrée en retraite. Il y a toute une série de réformes qui nous attendent qui vont accroître en fait un malheur qu'ils tentent de justifier économiquement alors qu'il n'est pas du tout justifié de cette forme. Sur les champs, samedi, il y a des gens qui venaient me voir, qui disaient « Mais qu'est-ce que vous en pensez ?» Parce qu'ils voyaient bien, on était au milieu de l'après-midi, qu'il y avait toute cette ambiance quand même quasi insurrectionnelle. Hein, c'est-à-dire qu'il y avait quand même des milliers de personnes, mais littéralement des milliers de personnes qui criaient « Révolution !» et qui accompagnaient les mouvements de flux et de refus de la part des Black Blocs et d'autres personnes plus engagées contre les policiers sans à aucun moment... contre les forces de l'ordre ou les symboles qu'ils visaient sur les champs sans à aucun moment s'en désolidariser. Et donc ce qui était extraordinaire pendant cette journée, c'était l'indistinction complète en fait entre ce que l'on aurait appelé jusqu'alors un manifestant pacifique ou quelqu'un qui était venu casser, etc. Il y avait des jeunes, des vieux, des personnes plus ou moins exposées et ils formaient une masse de personnes qui étaient déterminées à se faire entendre coûte que coûte et qui considéraient que un moment provoquer des dégâts n'était pas quelque chose de grave si c'était la condition pour ne pas se laisser abattre en tant que mouvement, symboliquement, par le pouvoir qui lui faisait face et qui, depuis des mois, essayait de l'enterrer par toutes les façons possibles et imaginables. Et la grande question qui se posait, c'était, bon, on a marqué le coup, mais maintenant quoi? Parce qu'on va pas toutes les semaines aller dévaster les Champs-Élysées. Personne n'a envie de dévaster les Champs-Élysées, personne n'a envie de casser. Les gens qui viennent sur les champs, c'est les gens qui viennent se faire entendre, mais qui n'ont pas de pulsion de brutalité. Et elles se retrouvent face à une situation qui est devenue insupportable, à laquelle le gouvernement considère qu'il n'existe plus, qu'ils n'ont plus rien à dire. Les propos d'Emmanuel Macron hier face à ces 60 intellectuels triés sur le volet, qui était quand même un moment assez extraordinaire à percevoir, c'est-à-dire déjà une antenne de radio publique qui pendant 8 heures d'affilée donne libre champ à une discussion entre guillemets entre un homme et 65 autres personnes, ce qui est déjà assez avilissant pour les intellectuels entre guillemets qui ont accepté de se prêter à ce jeu de cours. Finalement, on reproduit une sorte de mécanisme d'asservissement par rapport au souverain qui tout d'un coup a une sorte de prise sur eux complètement délirante alors qu'il n'y a aucune raison qu'il y ait cet écrasement de leurs paroles et qui par ailleurs étaient pour la plupart d'entre eux des personnes qui avaient été soutien de Macron à un moment ou un autre avec très peu de voix critiques, un dispositif qui faisait qu'il n'y avait pas de discussion possible et donc du coup évidemment in fine une opération de propagande délirante. Et même dans ce genre d'opération, Emmanuel Macron n'a pas l'intelligence de faire quelque chose qui pourrait susciter adhésion. Il en s'en réduit à dire, on a répété cette parole, les gilets jaunes ne portent plus aucune parole, ne savent plus pourquoi ils manifestent. Ce qui est quand même extraordinaire. C'est vraiment, on voit le niveau de sidération de ces personnes, en fait, qui ne savent pas à quoi ils font face. Comme c'est des personnes qui n'ont jamais été mises en difficulté, mais surtout dont leur environnement social n'est pas du tout en rapport avec la vie de millions d'autres personnes en France, parce que tout est organisé de façon à ce qu'ils soient protégés. Non seulement eux en tant qu'individus, mais leur famille, leurs amis, leurs amants et leurs enfants, etc. C'est-à-dire qu'on va organiser des vases clos dans lesquels de l'école privée ou de l'école publique dont on s'est bien assuré qu'à travers la carte scolaire ou la destruction de la carte scolaire ou le détournement de la carte scolaire, elle ne cueillerait que des personnes d'une certaine classe sociale, etc. En passant par toute une série d'autres dispositifs, ces personnes ne seront jamais confrontées au risque de la précarité, au risque de la violence sociale, et donc au risque de ce mésentiment qui est celui qui habite, je pense, une partie des personnes qui sont mobilisées aujourd'hui, et qui leur est par nature étranger. C'est-à-dire que c'est une abstraction pour eux. Ils peuvent éventuellement avoir de l'intérêt, c'est-à-dire de la curiosité pour savoir, mais l'avoir ressenti ou même l'avoir vécu comme quelque chose qui les entourait, c'est quelque chose de complètement impossible. Et cette sorte de fonctionnement en vase clos et d'enfermement progressif de nos élites est pour moi un vecteur fondamental dans le fait que leurs prises de décision se sont orientées de plus en plus vers une déconnexion complète avec le reste du pays. Ces personnes ne vivent pas la même réalité que nous, et ce n'est pas pour autant qu'ils sont millionnaires ou milliardaires. Mais ils ont tous, par contre, des garanties d'emploi, des réseaux qui leur permettent à tout moment de rebondir, même en provoquant des catastrophes extraordinaires. Moi, j'ai enquêté sur le scandale Uramine. Je suis parti au Centrafrique pour le monde diplomatique. C'est quand même Anne Auvergeon qui est quelqu'un qui a fait Polytechnique, et que parce qu'elle a fait Polytechnique, et non seulement a fait Polytechnique, donc la plus grande école d'ingénieurs française, mais qu'ensuite est sortie dans la botte, donc dans un corps qui s'appelle le corps des mines, parmi les meilleurs classés, a eu toute sa vie une impunité complète pour faire n'importe quoi dans l'industrie, saccager successivement des industries, et notamment Areva, où elle a provoqué plus de 3000 suppressions d'emplois, après, à travers le scandale Uramine, avoir fait disparaître des milliards. On parle d'entre 1,8 et 4 milliards d'euros qui ont disparu des caisses d'arrivée, c'est-à-dire derrière de l'État, pour des faits à minima de mauvaise gestion. Moi, je suis intimement convaincu que c'est de la corruption et qu'il y a tout un système de commission, rétro-commission, mais on a fait disparaître 4 milliards d'euros, ce qui a amené à la restructuration d'Areva et d'EDF. Parce qu'évidemment, il faut bien à un moment compenser d'une façon ou d'une autre, et on est arrivé à un affaiblissement de nos services publics, un renchérissement du tarif de l'électricité, des suppressions d'emplois massives, qui elles-mêmes du coup ont un coût pour la sécurité sociale, etc. Bref, là je parle juste des coûts directs, mais si on parle en coûts induits et en coûts indirects, c'est massif. Et bien cette personne-là n'a jamais été sanctionnée, jamais été mise en examen. Enfin là, elle va être mise en examen pour une affaire très secondaire de corruption quasiment infime, on parle de quelques millions d'euros, c'est plus grand-chose, mais sur le gros de l'affaire. Et surtout, elle a réussi à avoir des postes, une position au sein du petit Paris qui ne s'est jamais effondré. Donc ce fonctionnement-là, évidemment, pose question, et donc pose aussi la question de comment est-ce qu'on se mobilise par rapport à tout ça. Et donc samedi, on commence à discuter avec des personnes, et moi je leur dis, mais écoutez, en fait, de toute façon, on n'a pas à se poser maintenant la question, ce samedi-là, de la suite de la mobilisation. C'est vrai qu'on est face à un mur, théoriquement, sauf qu'on est face à un pouvoir d'une bêtise extraordinaire. Et donc c'est eux qui vont, en fait, dans la surenchère, nous donner les moyens de nous remobiliser pour nous faire entendre. Et je leur disais, moi je pense qu'ils vont passer de la répression policière à la répression judiciaire. Et, c'est-à-dire qu'ils vont changer parce qu'ils savent bien qu'ils n'ont plus le contrôle et qu'ils n'intimident plus. Parce que si ce qui est passé le samedi sur les Champs-Élysées, ce qui est extraordinaire, c'est que les gens n'étaient plus intimidés. Face au gaz lacrymogène, face aux tirs de LBD, face même aux grenades désencerclantes, les gens restaient, voire surenchérissaient. Des gens normaux, hein, des gens qui n'ont jamais eu d'expérience manifestante pour certains d'entre eux avant l'acte 1. Et donc, face à l'absence d'intimidation policière, bah, il faut aller sur autre chose, et donc il faut aller sur la justice, c'est-à-dire menacer en gros de lourdes peines de prison, et notamment menacer qui ? Menacer les principaux dirigeants. Et donc, j'ai cette intuition-là, et dimanche, il y a ce truc magnifique où LCI fait un débat. Faut-il arrêter Nicole et Drouet ? Et alors là, Maxime m'envoie ça, et là, tout de suite, je me dis, bah, ballon d'essai. Ballon d'essai, c'est-à-dire comment fonctionne la presse en France. La presse fonctionne dans un système de connivence très marqué dans lequel les journalistes, pour se distinguer au sein de leur rédaction, ont besoin d'avoir accès au pouvoir pour essayer d'avoir des exclusivités. Et donc, qu'est-ce que font les hommes de pouvoir ? Ils usent et abusent de cet accès privilégié à la presse pour faire passer soit des mesures, soit tenter de faire des essais, en fait, pour voir comment est pris dans la population telle ou telle réaction par rapport à telle ou telle mesure. Et donc évidemment, ce qui s'est passé avec ce débat sur LCI, c'était annonciateur de quelque chose. C'était on va lancer ça comme ça, ce qui va adoucir tout le monde, parce que en gros, on l'annonce pas, donc on prépare des esprits, on voit comment ça réagit. Si ça réagit trop brusquement, bon, on fera marche arrière, mais c'est un débat sur LCI, a priori ça ira, puis on va voir comment ça dissémine peu à peu, et du coup, quand nous, on l'annoncera, cet effet de choc sera beaucoup moins important. Cette réaction de se dire « Mais attendez, on est en plein délire, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» va être réduite. Donc là, je parle à Maxime, je dis « Ok, prépare-toi, ça va chauffer à mon avis dès lundi. » Et donc lundi, qu'est-ce qu'on a ? On a la conférence de presse d'Edouard Philippe qui, là, cible, sans le dire, des personnalités qui auraient incité à la commission d'urgence, etc. Et dit « des personnalités » entre guillemets, parce que tu ne supporterais pas que Maxime ou Eric soient considérés comme des personnalités. Et dans la foulée, Castaner qui dit bah, « c'est Drouet et c'est Nicole. » Et d'ailleurs, il a cette phrase incroyable, il dit « Je porte plainte contre eux. » Notre ministre de l'Intérieur ne sait pas que c'est une plainte, mais un signalement. Quoi. C'est quand même génial, l'article 40, c'est pas des plaintes. Enfin, donc il parle de l'article 40. Vous voyez, et il dit juste l'article 40. Bon, c'est l'article 40 du code pénal, mais donc c'est une façon de dire, moi je maîtrise le truc, je parle de l'article 40 comme si c'était mon... Enfin, je disais tous les soirs le pot du code pénal. Hein. Et en fait, le type après derrière dit je porte plainte, alors que c'est pas une plainte, c'est un signe. Enfin, vous voyez, enfin, c'est vraiment une catastrophe absolue. Et donc on se retrouve dans une situation où maintenant on essaie de déstabiliser, voire tout simplement de mettre, d'enfermer les têtes de pont en disant mais en fait du coup ça va se désagglomérer, ça va se désagréger derrière et le truc va s'effondrer. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire qu'ils n'ont rien compris. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'on dépend de Maxime, Nicole ou d'Éric Drouet pour continuer à se mobiliser, pour défendre nos droits. En fait, ils pensent, pour eux, la politique, c'est une virtualité. Ils pensent qu'en fait, c'est un jeu de pouvoir comme cela l'est pour eux. Pour eux, la politique, c'est quelque chose qui n'a jamais eu de conséquences sur leur corps, autre que des enjeux de carrière. Donc c'est un jeu, c'est Game of Thrones, vous voyez, c'est vraiment, on va s'amuser à un jeu d'échecs, à se battre contre battre jusqu'au moment où on va obtenir une position. Alors, il ne faut pas prendre trop de risques parce qu'il ne faut pas s'effondrer dans le petit Paris, dans l'espace social auquel on appartient, mais quand même, sinon, dans le reste, les décisions que l'on prend ne seront évaluées qu'à l'aune des conséquences qu'elles auront sur notre propre carrière. C'est ça leur enjeu. Et donc, ils pensent qu'on fonctionne pareil. Et ils pensent du coup que s'il y a un coût opportunité trop élevé maintenant pour Maxime Nicole parce qu'il risque d'aller en prison, je vais dire bah non, mais j'arrête. Enfin, ils ne se rendent pas compte que pour lui, c'est un enjeu vital. Pour lui, pour les personnes qui l'entourent, il a bien vu que le combat qu'il portait, c'était quelque chose qui pouvait sauver des vies, qui pouvait éviter à des familles de se désagréger, qui pouvait éviter à des personnes de mourir trop tôt d'un cancer, d'une dépression, d'un suicide, qui pouvait éviter à des emplois d'être supprimés. C'est-à-dire, toutes les conséquences derrière un emploi supprimé, ce n'est pas une statistique. Pour eux, c'en est une. Parce qu'eux-mêmes, parce qu'ils ont des emplois à vie dans la haute fonction publique, ou alors parce qu'ils pantoufent et que leur patrimoine est valorisé au sein des entreprises privées et qu'ils pillent le rapport qu'ils ont à l'État pour le rémunérer, pour que des entreprises privées les rémunèrent et que du coup, ils puissent corrompre l'État auquel ils appartenaient. Ces gens-là n'ont jamais cette exposition. Un emploi supprimé quand vous êtes dans un bassin où il y a peu d'emplois, et que du coup vous allez retrouver le lendemain sans fonction dans la société, et que vous allez être hagard en train de tâtonner dans votre village, dans votre ville, sans trop savoir à quoi vous raccrocher, en allant à Pôle emploi où on va vous traiter comme un rien du tout. Et tout ça c'est inconcevable pour eux. Ils ont toujours la possibilité de rebondir. Ils ont un capital symbolique, culturel, etc., qui leur permettra toujours de se raccrocher tout de suite avant même de se faire licencier, etc. Donc le fait qu'un emploi qui disparaisse, ce soit un trou duquel on ne puisse pas sortir éventuellement, ils ne savent pas ce que c'est. Ils vivent dans cette surabondance. Et cette surabondance vient d'où ? Du fait qu'ils sont très proches du pouvoir. Donc d'une ressource qui est quand même extraordinaire, parce que c'est quoi le pouvoir ? C'est quoi l'État ? Bah, c'est tout ce qu'on envoie comme richesse à Paris. C'est ce que tous les Français, les millions de Français, en travaillant, en produisant de la richesse, envoient à l'État par l'impôt, la taxe, etc., qui est chargé de redistribuer. Mais comme ils sont tous à côté de ce centre nucléaire, qu'ils ont un accès quasi direct à ces ressources-là, alors normalement pas direct, hein, ils ne peuvent pas aller au trésor et tirer pour eux directement de l'argent. Ça, on a réussi à avoir dans cet État ce minimum de contrôle sur nos ressources, finances publiques qui font qu'il n'y a pas cette corruption immédiate, mais indirectement, en prenant des décisions, s'assurer qu'en servant les intérêts de tel ou tel, derrière, ces personnes-là pourront leur redistribuer quelque chose, même si c'est marginal. Donc Anne Le Vergeon, qui a passé 30 ans de sa carrière à servir des intérêts privés, évidemment, elle trouvera toujours où rebondir, même si elle a coulé une entreprise publique de la taille d'Areva, même si elle a coulé la filière nucléaire, etc. Donc, ces personnes-là ne mesurent pas, sensiblement parlant, et du coup, c'est d'où l'importance de notre crise démocratique, dans le sens où d'où l'importance du fait qu'il n'y ait pas, dans l'Assemblée nationale, au sein du gouvernement et aussi dans l'administration, des personnes qui viennent de situations sociales différentes. D'où l'importance d'avoir en fait des fils d'ouvriers, des fils d'employés qui réussissent les grandes écoles et qui réussissent à porter avec eux une expérience que les fils de bourgeois, je suis désolé, ça semble caricatural mais ça ne l'est pas, n'ont pas. Or, ces grandes écoles, ce système scolaire qu'on a créé en France qui est censé assurer justement cette respiration démocratique, permettre à tout un chacun de fonctionner, l'illusion méritocratique dont on nous a toujours parlé, fait qu'à Normalsup et Polytechnique, donc en gros les endroits où quand vous y rentrez, ou Elena, des trois d'ailleurs, vous y rentrez, bah, vous avez votre vie assurée, vous aurez une position de pouvoir garantie qui va vous permettre de décider pour les autres. Il y a 1% de fils d'ouvriers d'employés pour 40% de fils de cadres. Donc je ne sais pas, moi je veux bien qu'on m'explique que les fils de cadres sont 40 fois plus intelligents qu'un fils d'ouvrier pour l'histoire d'un patrimoine génétique extraordinaire. Mais non, dans les faits, c'est juste qu'en fait, ce système-là est fait pour reproduire la condition sociale, du coup pour assurer, construire ce qu'on appelle un capitalisme d'héritage, en fait, où l'État va assurer un rôle qui va attribuer aux enfants d'eux non seulement un capital réel, économique, mais aussi un capital symbolique qui va légitimer leur domination. Parce que quand Arnaud Lagardère, le fils de Jean-Luc Lagardère, qui est un débile fini, hérite de l'Empire Lagardère, qui était quand même le premier actionnaire d'Airbus, excusez du peu, il faut bien trouver une justification. Donc on va essayer de se dire, bah non, mais c'est parce qu'il a fait une grande école à un moment, etc. Bon, il finit par couler EADS que l'État lui avait donné, et l'État, du coup, est obligé de racheter, de faire racheter, pardon, ses actions et lui refiler 100 millions d'euros de dividendes, parce que sinon, le pauvre Lagardère, il aurait dû abandonner son hôtel particulier, Lagardère fils. Mais voilà. Donc, par rapport. Dès le moment où vous avez ce problème qui va faire que dans les élites technocratiques, industrielles, économiques et d'État, vous n'avez personne qui a un ressenti direct ou indirect de ce qu'est en fait la vie normale. C'est un rapport à la vie vraiment, à la précarité, à la fragilité et aux racines de ce pays qui, encore une fois, nourrit tout cet appareil de direction. Et donc ces personnes-là qui ont quand même travaillé en prépa pendant 2-3 ans ont l'impression qu'en fait, ils sont très méritants, quoi. Ils sont supérieurs au reste du monde. Ils croient encore plus que nous à la fable du système. Et donc, évidemment, derrière, toute leur vie, ils vont considérer qu'on leur doit quelque chose. Et à aucun moment, ils vont se dire, mais non, mais en fait, si on a cette position-là, c'est parce qu'on a, par miracle, il y a des millions de personnes qui ont financé ces écoles qui coûtent extrêmement cher, qui nous ont donné ce privilège extraordinaire d'avoir accès aux meilleurs professeurs de la société, peut-être de la planète, qui nous ont donné la possibilité de consacrer notre temps pour étudier, pour apprendre, pour avoir des outils. Mais pourquoi est-ce que ces gens-là, pourquoi est-ce que les gens payent des impôts? Pourquoi est-ce que les gens ont créé cette classe ou ces castes de journalistes, d'intellectuels, de décideurs, etc.? C'est parce qu'on s'est dit qu'il fallait qu'on investisse en eux pour qu'ils prennent des décisions en notre nom, parce que nous, on n'avait pas le temps de faire ce travail. Donc on donne la possibilité à des gens de faire ce travail à notre place, pour qu'ils le fassent pour nous. Pas pour qu'après, eux, ils se contentent de reproduire leurs intérêts et de se satisfaire de leur situation. Ben ça, ils oublient complètement que l'argent ne vient pas de nulle part, que c'est pas grâce au mérite des énarques, enfin au génie des énarques, pardon, que ce pays est devenu riche et fort, etc., mais grâce au courage de son peuple, etc. Et donc ces personnes-là se retrouvent dans la conviction qu'ils sont faits pour dominer et qu'ils doivent rester dans cette position-là et que s'ils ont commis un échec, c'est jamais de leur faute. Et voilà. Donc le vergeon continue à s'accrocher ou, pour prendre un exemple dans le politique, François Hollande continue à penser qu'il pourrait devenir président de la République en 2022. Enfin, vous voyez, enfin... Ok, très bien. Continue comme ça. Et ils finissent par nous faire croire. Pourquoi? Parce qu'ils ont toute une série de relais médiatiques super puissants, parce que c'est leur copain de promotion, parce que vous avez vu ce que j'ai raconté la vidéo avec les oligarques, etc., pour fabriquer du consentement et pour faire qu'on finisse par croire dans la fable qui justifie leur domination. Et si on ajoute à ça le dernier point, qui est le fait que non seulement on n'a personne dans les élites technocratiques, dans l'administration, dans les élites économiques, industrielles, on n'a personne aussi dans les élites médiatiques. Parce que évidemment, du coup, bah, pareil, que des bourgeois ou fils de bourgeois qui se retrouvent là et qui du coup portent la parole de leur classe sans aucune sensibilité de réel, à quelques exceptions près, on a vu ce qui se passe les places marginales qu'ils ont pour des personnes comme Ruffin, justement, quand il était journaliste. Et le mépris surtout avec lequel il était traité, ou Daniel Mermet, qui a fini par être éjecté du service public. Et bien, quand vous rajoutez à ça que dans ce qui devient pourrait être finalement le dernier lieu où on pourrait avoir un contre-pouvoir, un dernier lieu où on pourrait finalement être représenté, un lieu qui a été créé pour ça, qui a été créé face à l'aristocratie, face à la monarchie, pour justement porter notre parole, et qui est l'Assemblée nationale, et bien vous avez à nouveau 0% d'ouvriers et 5% d'employés. Un député n'a qu'une fonction, c'est représenter le peuple. Un député n'a pas à être compétent. Ça, c'est le rôle de l'administration qui va lui préparer des notes et qui va voir. Et après, ce député, en tant que représentant du peuple, des intérêts du peuple, de dire, ben, moi, politiquement, je considère qu'il faut faire... Vous me proposez plusieurs options. Je considère que c'est celle-là qui est politiquement la plus saine. Mais c'est à l'administration, à tous ces technocrates, etc., de leur préparer, les préparer à la décision. Et vous pouvez être quelqu'un qui a arrêté l'école à 15 ans, qui vous auriez théoriquement même pas besoin de savoir lire. Par contre, vous devez avoir une forme d'intelligence qui est accessible à tout le monde, qu'on ne trouve pas forcément à travers l'école, qui va vous permettre d'un moment de peser les pour et les contre et dire, ben non, ben ça, par exemple, quand vous réduisez 5 euros des APL pour créer je ne sais quelle niche fiscale, ben là, ça ne va pas passer. Vous pouvez me donner tous les arguments économique que vous voulez, moi je vais voir dans ma circonscription autour de moi des gens qui vont vraiment souffrir de ça, donc je ne le fais pas. Je ne le fais pas parce que je suis là pour porter leur parole. Et bien même dans cette assemblée, même à l'Assemblée nationale, on est rentré dans un système, une démocratie bourgeoise encore une fois, qui fait que non, ben, on n'a que des cadres supérieurs, on n'a que des héritiers, ou que des personnes qui en fait incarneraient le renouveau du pays, c'est-à-dire les start-upers là, un terme qui veut strictement rien dire, qui seraient en fait des personnes qui se seraient faites toutes seules, de rien, hein, pour tous les services publics, l'éducation gratuite, la santé, etc., qu'on a financé nous, encore une fois, et donc évidemment qui vont se montrer parfaitement insensibles à ces questions-là. Donc face à cette crise dont vous parliez tout à l'heure, de la représentativité complète, parce qu'on n'a rien, on n'a vraiment rien, c'est-à-dire on ne peut s'accrocher à rien, et on sent bien dans la façon dont le mouvement social est traité par les médias, par ces personnes-là, bah, ils ont créé une bulle dans laquelle ils sont complètement isolés, ils ne comprennent rien. Et du coup, nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que vous faites quand... Qu'est-ce que 50% de la population qui n'est représentée nulle part, là, je prends juste les ouvriers et les employés, va faire? À un moment, elle va quand même chercher à défendre ses intérêts. Et quand elle se rend compte que la taxe carbone n'était pas faite pour faire de la transition écologique, mais comme les Macroniques l'ont révélé, elle est faite pour transférer des ressources de 60 millions de personnes qu'on va taxer, parce que le diesel, enfin, la taxe sur le diesel, finalement, ça a impacté tout le monde. Ça, parce que quand vous allez acheter quelque chose, bah, le truc a été transporté par un camion, enfin, vous voyez ça dans le supermarché, tout le monde allait payer en fait cette taxe, même ceux qui ne conduisent pas, pour financer quoi? La suppression de l'ISF. Non mais je veux dire, à un moment, enfin, ça devient tellement délirant, au nom de quoi? Au nom de quoi on va mettre plus en difficulté tout un peuple pour aider quelques milliers de personnes qui sont déjà entre leur stratégie d'évasion ou d'optimisation fiscale, comme le dit M. Macron, en train d'essayer de s'exfiltrer de la solidarité nationale, ces personnes qui ont fait leur fortune grâce à l'État, pour la quasi-totalité d'entre eux, Lagardère, Arnault, Niel, etc., toute leur fortune s'est faite ou dépend ou a dépendu de l'État d'une façon ou d'une autre. D'où le fait qu'ils rachètent des médias pour avoir un poids dans la sphère politique et contrôler les hommes politiques pour s'assurer que leurs avantages vont rester préservés. Ça, je détaille dans Crépuscule, on ne va pas rentrer dedans parce que sinon on est parti pour des heures et des heures. Mais je vous détaille bien en fait ce système de compromission qui font qu'en fait ces personnes-là qu'on présente comme des gens extrêmement brillants, etc., n'auraient jamais pu faire fortune si l'État, à un moment, s'il n'avait pas d'une façon ou d'une autre pillé l'État. En fait. Donc cet État qu'il décrit, cet État qu'il ne cesse de dire qu'il faudrait en réduire l'ampleur, etc., parce qu'il pèse sur leurs affaires. On se souvient de Bernard Arnault qui voulait prendre la nationalité belge. Et pour payer moins d'impôts alors qu'il a une fortune personnelle estimée en 2018 à 80 milliards d'euros, fortune qui vient, vous le savez, de la captation de Boussac permise par le gouvernement de Fabius dans les 80, c'est-à-dire l'État lui a filé non seulement Boussac mais aussi des centaines de millions de francs de subventions contre la promesse de non-suppression d'emplois et de non-démantèlement du groupe, qui n'a évidemment pas été respecté. Plus de 3000 emplois ont été supprimés, le groupe a été démantelé. Toutes les filières qui n'avaient pas de valeur, toutes les filières textiles un peu moins haut de gamme que Dior et Cardin et compagnie ont été mises au rebut à travers tout un système de faux rachats, enfin de rachats par des faux repreneurs qui mettaient immédiatement en dépôt de bilan les sociétés qu'ils reprenaient. Qui étaient en fait par ailleurs des actionnaires d'Arnaud, etc. Donc tout ça en fait avec l'appui, la complicité de la puissance publique qui derrière s'est trouvé un très bel appui pour faire promouvoir les carrières politiques des uns et des autres, etc. Bah, ces pillages-là, ces personnes qui pillent en plus considèrent que justement on leur en demanderait trop. Bon, bah, face à ça, à un moment, bah, évidemment que les gens sont dans la rue et évidemment que les gens n'en sortent pas. Quand vous êtes devenu à ce point inaudible, à ce point écrasé socialement, économiquement, discursivement, symboliquement parlant, à un moment où c'est marche ou crève. Enfin, et à un moment, il faut marcher. Et ça, évidemment, on ne peut pas y répondre par du discours, par un grand débat, par un meeting de propagande. Or, eux continuent à penser qu'on est des capricieux. Eux continuent à penser qu'en fait, si on s'est retrouvé à la rue, etc., c'est un truc, en fait, c'est une façon de faire du bruit un peu. Mais bon, enfin, finalement, on ne vit pas si mal en France. On est quand même la 6e puissance mondiale. C'est pas si grave ce qui se passe. Et ils se calmeront bien, quoi. Et donc, du coup, ils se sont dit qu'ils pouvaient, par les médias, par la propagande, nous faire taire. Et d'où leur surprise de samedi dernier. Leur surprise où ils étaient complètement ahuris. Qu'en fait, non. Non seulement ça n'allait pas s'arrêter, mais que ça allait redoubler d'intensité. Parce que cette opération de propagande n'avait fait que renforcer la rage à leur égard, en fait. La rage à leur égard, et parce que c'était un vrai doigt d'honneur qui nous était fait. Alors quand vous rajoutez le fait qu'ils étaient au ski ce jour-là qui se faisait prendre en photo hein, dans des opérations de communication. Non, mais c'est dire le niveau de déconnexion. Le type pensait qu'il en est, que cette nouvelle phase était là. On en était à cette nouvelle phase. C'était bon, les trucs. Ça s'est calmé, je lui ai montré que je suis serein, que je suis à nouveau un type, un chic type d'un mec qui peut servir des magnums de vin à je ne sais pas combien de centaines d'euros. Il a cru qu'on était en cette phase de reconquête de séduction, exactement comme il l'avait fait en 2016, avec l'aide de Paris Match, de Mini Marchand, etc., pour essayer de nous draguer, de nous convaincre qu'on était en paix avec lui, quoi, et que tout allait bien. Bon, bah, évidemment, ça ne passera pas. Et la question, c'est comment est-ce qu'on sort de la souricière dans laquelle ils essayent de nous mettre? Comment est-ce que, alors qu'on n'est plus de façon aussi écrasante majoritaire qu'on était avant dans la population, parce que les bourgeois ont compris hein, que finalement, enfin, ce qu'on faisait n'était pas forcément dans leur intérêt. Quoi. Enfin, après, on se souvient hein, des premiers jours des Gilets jaunes avec les 4-4 très haut niveau avec les Gilets jaunes. Enfin, je pense qu'ils n'avaient pas compris ce qui se jouait. Ils s'étaient dit on est aussi concernés par. C'est très bien. En gros, ils pensaient que c'était un truc populiste, poujadiste, anti-taxe, anti-service. Tant mieux, hein, ça nous a permis pendant un moment de les sidérer. Et d'où le fait qu'ils aient pris vraiment peur, en fait, quand ils se sont rendus compte que c'est pas ça. D'où le fait qu'il y ait eu un effondrement quasiment du système en début décembre, parce qu'il y avait eu un tel écart entre le réel et le perçu, que tout d'un coup, il y a une abîme devant eux, et ils se sont dit, en fait, non, on risque de tomber, et on risque de tomber avec Macron. Et donc ça, cette phase est passée, et maintenant, c'est comment est-ce qu'on... La question, c'est comment est-ce qu'on réussit à... Non pas continuer la mobilisation, parce que ça n'a aucun sens de continuer la mobilisation en soi, mais comment est-ce qu'on la fait évoluer et on la transforme de façon à la rendre déterminante et à cette fois provoquer des bascules. Donc voilà, moi c'est le grand enjeu aujourd'hui.
C'est une vraie question.
De trouver les solutions par rapport à ça, mais avec cette idée que de toute façon, encore une fois, j'en reviens au tout début de mon truc sur Maxime Nicole et la stratégie de répression judiciaire, ils vont continuer à commettre des erreurs. Tactique et stratégiquement, ils vont continuer à faire ce pourquoi ils ont été élus, c'est-à-dire nous piller. Donc, on aura raison quoi qu'il arrive. Et ça, c'est quand même la dernière chose que je vais vous dire. On a déjà raison. Donc, quoi qu'il arrive, quelle que soit la fin de ce mouvement, que ce soit dans une semaine, un mois, un an, cinq ans, on aura eu raison de se mobiliser. Et ça, cette fierté de savoir qu'on s'est battu pour des. Enfin, qu'on a réussi à retrouver cette dignité, qu'on a réussi à faire revenir une voix importante, voyez bien à quel niveau de violence ils essaient de nous écraser et de nous traiter d'antisémites, de je sais pas quoi, nana, pour essayer vraiment de parce qu'en fait, ce qui leur fait le plus peur, c'est ça. C'est tout à coup qu'on se dit, mais on n'a pas besoin d'eux. En fait, ces personnes-là, non seulement on n'a pas besoin d'eux, mais en fait, c'était eux qui étaient le mal et pas nous. Alors que depuis des années, ils nous faisaient croire que c'était nous qui nous trompions, que c'était nous qui faisions ci, etc., etc. Depuis la crise de 2008, et l'énorme dévastation qu'elle a produit dans le pays. Cette crise dont personne n'a jamais réussi à avoir une interlocution réelle, c'est-à-dire personne n'en a réellement parlé, qui a fait qu'on s'est retrouvé chacun isolément, c'est ce que je disais à la fin de l'entretien de Mermet, chacun isolément, on a cru que c'était notre faute, si notre salaire stagnait, si on perdait notre emploi, si notre foyer se décomposait. Depuis ce moment-là, il n'y a pas eu de parole politique qui revendique le fait que non, c'était pas nous, c'était eux, c'était leur système, leur fonctionnement avec les subprimes, donc le rapport entre l'État et les banques qui avait provoqué une paupérisation de la très grande partie de la population, et que du coup, c'était à eux de rendre des comptes. Et pas à nous, en réduisant nos prestations chômage, nos droits à la retraite, en comprimant les salaires, etc. Et qu'il fallait renverser justement ce système d'impunité. Et bien, depuis ce moment-là, il y a quelque chose chez eux qui reste très précaire et très fragile, parce qu'ils sentent bien que le jour où on arrivera vraiment à provoquer ce renversement, et bien, ils payeront chèrement.